Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire Apothicaria consacré aux infections urinaires. Donc, je suis Benjamin Dupré, cofondateur avec mon épouse Nadia Meyerhofer et gérant d'Apothicaria. Et j'aurai le plaisir d'être rejoint par Cécile Silvert. Donc, Cécile, je pense que tu peux te présenter et éventuellement activer ta vidéo. Je crois qu'on ne te voit pas.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire. Le problème est que je ne vois pas l'endroit où je peux afficher l'image. Alors,
Et on a un
j'ai.
écho sur ton son. Je crois que tu as un micro en double.
Ah bon?
Oui.
Alors, est-ce que tu m'entends?
Oui, je
Ou
t'entends,
alors?
mais on t'entend en double. Il y a un écho.
Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà les joies du direct. Et alors, ajuster à la fenêtre, affichage plein écran. Moi, je ne te vois plus. Je ne te vois plus. Je vois l'écran, mais je ne te vois plus. Et je ne sais pas du
Okay.
tout comment.
Apparemment, on t'entend bien, donc on va continuer comme ça.
D'accord, très
Voilà.
bien.
Donc, je te laisse te présenter.
Alors, Cécile Silver, je suis conseillère en naturopathie pour Apothicaria depuis quelques années déjà. Alors, pourquoi choisir ce thème, les infections urinaires, pour premier webinaire? Eh bien, simplement et malheureusement parce que trop nombreuses sont les personnes qui en souffrent, proportionnellement beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et pour ce webinaire, nous souhaitons préciser que le propos portera sur les infections touchant la vessie et l'urètre, la prostate et non les reins dans les cas de pyélonéphrite. Voilà.
Parfait, merci. Donc, nous sommes heureux pour ce premier webinaire qu'on organise. Hein, donc, c'est notre tout premier. Donc, merci pour votre indulgence si on a
Merci, oui.
des petites. Et donc, voilà, on est très content de parler des infections urinaires parce que c'est un sujet qu'on a exploré depuis les débuts, en fait, hein, depuis début de notre aventure avec Apothicaria en 2007, hein, puisque notre premier produit référencé, donc historiquement, c'était le démanose. Donc, personnellement, j'ai une formation en médecine traditionnelle chinoise et plus particulièrement en acupuncture. Et en bon énergéticien, je ne croyais absolument pas aux compléments alimentaires. Donc, au début, j'ai aidé mon épouse Nadia à répondre au téléphone et puis je prenais quelques commandes, répondais à des questions. Et puis, au fur et à mesure, plus le temps passait, et puis j'entendais des personnes qui me disaient que le produit est efficace, que ça marchait bien. Et finalement, c'est à cause de ce produit que j'ai plutôt approfondi, j'ai regardé plus sérieusement les compléments alimentaires et j'en ai fait mon champ de recherche principal depuis. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut remplacer l'énergétique par les compléments alimentaires. Je suis très convaincu que l'énergie soigne et guérit. Et je pense qu'il y a certainement parmi vous beaucoup de thérapeutes qui sont bien plus doués que moi dans ce domaine. Donc, les infections urinaires constituent un sujet finalement peu évoqué, mais qui touche de nombreuses personnes. Donc, on admet communément que 50% des femmes adultes font un épisode de cystite une fois dans leur vie, au moins une fois dans leur vie. Donc, 20% des femmes ayant eu une infection urinaire auront une récidive. Et entre 20 et 50 ans, les infections urinaires de la femme sont 50 fois plus fréquentes que chez l'homme. Donc, il y a vraiment un déséquilibre. Donc, on verra les raisons probablement anatomiques par rapport à ça. Et après 50 ans, en fait, c'est l'inverse. L'incidence des infections urinaires chez l'homme augmente bien plus, et notamment à cause de l'apparition des maladies prostatiques. Voilà. Donc, dans ce webinaire, on va aborder la problématique de l'infection urinaire en la définissant et en analysant les causes diverses qui peuvent la provoquer, dont les facteurs aggravants, l'importance du pH, l'acido-basique dans l'organisme. Et dans un deuxième temps, on présentera les solutions possibles par rapport à cette problématique. Donc, c'est le fruit de nos 15 ans d'expérience avec les retours clients, etc. Et notamment, on vous présentera le démanose, donc, qui concerne je dirais 80% des infections, hein, puisque c'est efficace sur Escherichia coli. Mais il y a d'autres produits qui peuvent compléter le démanose en cas de besoin. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser à tout moment une question en cliquant sur Q&R. Alors, je crois que c'est en bas de votre écran. Et on essaiera d'y répondre à la fin. Donc, on va réserver un temps pour la réponse aux questions. Et puis, je vous précise également que vous recevrez dans un mail, probablement semaine prochaine, un lien pour accéder au replay. Donc, voilà, je vais laisser la parole à Cécile pour qu'elle nous emmène dans le vif du sujet.
Alors, je suis navrée, mais ça n'a pas une importance fondamentale. Mon image n'apparaît pas à l'écran, mais ça ne m'empêche pas de vous exposer ce dont nous voulions vous parler. Voilà. Alors, en guise d'introduction, nous nous permettrons de rappeler ce qu'est une infection urinaire et comment elle se manifeste. Nous pensons qu'il est important pour le propos de poser les bases et de façon à bien nous entendre sur les termes. Alors, qu'est-ce qu'une infection urinaire ou tout court une infection? Eh bien, une infection est à la fois un envahissement par un agent étranger capable de se multiplier et l'ensemble des modifications pathologiques qui en résultent. Alors, dans le cadre d'une infection urinaire, la définition serait la suivante. Une infection ici urinaire est à la fois une pénétration, un envahissement du tractus urinaire par un agent étranger, des micro-organismes, des bactéries comme l'Escherichia coli, le Klebsiella, le Proteus mirabilis, l'Enterococcus, le Staphylococcus par exemple, capable de se multiplier, de se développer, de provoquer des lésions, de sécréter des toxines et alors de créer une inflammation. Et l'inflammation est une réponse de notre organisme à une agression. Une inflammation, c'est une réaction pour le maintien de l'intégrité du soi. La présence de ces bactéries crée donc une inflammation. L'inflammation de la muqueuse vésicale, c'est-à-dire la vessie, est une cystite qui peut être aiguë ou devenir chronique, microbienne ou purement inflammatoire. L'inflammation de la muqueuse de l'urètre, c'est-à-dire du conduit excréteur de la vessie qui livre passage à l'urine lors de la miction. Donc, allô? Benjamin?
Oui, tu peux continuer. Oui,
voyez, il y a une musique. Excuse-moi, mais j'ai une musique, je ne sais pas du tout pourquoi, il y a une musique qui s'est déclenchée.
Et un Slack. Je crois que ça vient de Slack. Un Slack.
Alors, notre micro est désactivé. Voilà, merci. Alors, voilà les joies du direct à nouveau. Donc, je disais que l'inflammation de la muqueuse de l'urètre, qui est le conduit excréteur de la vessie, qui livre passage à l'urine lors de la miction. Donc, l'inflammation de l'urètre est une urétrite. Et l'inflammation de la glande prostatique, c'est-à-dire en gros de la prostate, est une prostatite. Elle peut être aiguë et aussi devenir chronique. Alors, comment se manifestent ces infections à la fois chez l'adulte et chez l'enfant? Eh bien, de manière identique. Quoique, ces infections se manifestent de façon variable et d'une intensité différente d'une personne à l'autre par une fréquence excessive des mictions, une polachiurie, cependant l'urine peut être rare, une douleur ou des sensations de brûlure à la miction, des douleurs dans le bas-ventre, des urines troubles, parfois accompagnées de sang, de pu, et les urines donc, peuvent aussi dégager une odeur désagréable, nauséabonde. D'autres signes, sans symptomatologie urinaire, peuvent apparaître. Une mauvaise haleine, alors ça ne sera pas les dents, des sueurs profuses, une poussée ganglionnaire, l'adénite, donc une modification inflammatoire d'un nœud lymphatique. Et particulièrement chez les personnes âgées, il y a des signes qui doivent alerter. Et là aussi, sans symptomatologie urinaire, une altération de l'état général, une certaine confusion, l'apparition ou l'aggravation d'une incontinence urinaire. Enfin, chez les tout petits ou le nourrisson, les symptômes sont plus difficiles à interpréter. Ce peuvent être des pleurs plus fréquents, une perte d'appétit, de la fièvre sans autres symptômes, des urines malodorantes. Alors, les symptômes peuvent être pris séparément ou aller de pair. Toujours est-il que quel que soit l'âge, des douleurs lombaires et une fièvre à environ 38 feront penser à une piélonéphrite aiguë. Ça, c'est un cas d'urgence médicale. Il ne faut pas jouer avec ça. Et c'est donc comment dire, la direction du cabinet médical. Il faut que vous voyez un médecin ou bien vous présenter aux urgences d'un hôpital. Après avoir rapidement brossé le tableau d'une infection urinaire et de ses manifestations, eh bien, me direz-vous, comment confirmer une infection si l'on pense en avoir une? Alors, pour une infection urinaire simple, comme une cystite, une bandelette urinaire suffit. Elle permet d'exclure rapidement la piste d'une infection urinaire si le test est négatif. Mais je dis cependant, il faut consulter pour comprendre la cause de ces symptômes qui semblent écarter une infection urinaire. Si la bandelette est positive, faire pratiquer un ECBU, c'est-à-dire un examen cytobactériologique des urines, confirmera l'infection, permettra de connaître légèrement cause et de se soigner. Pourquoi déclare-t-on une cystite, une urétrite, une prostatite? Comment ces bactéries se retrouvent-elles dans la vessie et l'urètre, à côtoyer aussi la prostate? Il s'agit non seulement d'intervenir efficacement, bien entendu, sur ces infections urinaires, mais encore d'en comprendre la cause, ce que nous allons voir. Une précision, mais une précision d'importance avant d'entrer dans le vif du sujet. Chez la femme comme chez l'homme, nous pouvons le constater sur diapositive numéro 4 par les pastilles. Sur la diapositive numéro 4, on voit très bien la proximité anatomique de l'appareil digestif, de l'appareil reproducteur, merci, et de l'appareil urinaire. Chez la femme, le microbiote vaginal devra lutter efficacement contre une invasion, une attaque bactérienne, comme il est à proximité de l'appareil urinaire, et lui faire écran pour éviter une invasion par l'urètre. Il faut bien avoir cela en tête, que la capacité du microbiote vaginal à s'opposer à une invasion éventuelle, dépend de l'équilibre de ce microbiote. Chez l'homme, les infections urinaires sont favorisées par les problèmes prostatiques liés au vieillissement, mais pas que, et à la vidange incomplète de la vessie. Idem pour la femme, qui favorise la prolifération des bactéries. À noter enfin que la rétention urinaire volontaire et répétée, chez l'adulte comme chez l'enfant, favorise les infections urinaires. C'est le cas de l'adulte et de l'enfant qui n'osent pas parfois demander à aller aux toilettes, enfin en tout cas pour l'adulte à aller aux toilettes lorsqu'il est en classe ou en réunion, en conférence, etc. Alors, quels sont les facteurs favorisant le développement d'une infection urinaire? Des problèmes physiologiques, une vessie qui se vide mal par exemple, ou des problèmes anatomiques, un urètre courbé, rétrécit, des anomalies des valves de l'uretère, par exemple, le fait d'être âgé, d'avoir eu une intervention sur l'appareil urinaire, d'avoir du diabète, d'attendre un enfant, mais aussi de se trouver dans un état émotionnel, psychique particulier, permettent aux toxines de stagner, de se multiplier, de prospérer, d'endommager l'appareil urinaire. Alors, nous allons nous intéresser de plus près à d'autres facteurs. Le déséquilibre du microbiote intestinal, la constipation chronique, l'hygiène de vie, l'hydratation et la question cruciale de l'équilibre acido-basique. Qu'en est-il du microbiote intestinal? Notre microbiote intestinal, qui avait été nommé depuis fort longtemps flore intestinale, est un subtil et savant mélange d'à peu près 100 000 milliards soit un nombre plus élevé que les cellules de notre corps tout entier, près de 100 000 milliards de bactéries, de bacilles, de levures, de champignons différents qui se régulent les uns les autres, s'équilibrent entre eux, exercent un contrôle les uns sur les autres. 500 espèces de germes se côtoient ainsi. Les germes de fermentation à hauteur de 85% et les germes de putréfaction à hauteur de 15%, qui constituent pourtant, hein, malgré ce pourcentage qui paraît déséquilibré, qui constituent pourtant un bel équilibre sain, colonisant telle et telle partie définie de l'intestin grêle et du côlon, et seulement certaines parties. Il n'y a pas de mélange des germes de fermentation et de putréfaction. Ces germes ont des lieux définis dans l'intestin grêle et dans l'intestin, dans le côlon, des lieux définis de vie. Et leur nourriture est notre alimentation, que ce bel ensemble nous restitue en libérant les oligoéléments, les minéraux, les acides aminés, les vitamines, les enzymes, etc., dont notre corps a besoin pour rester en santé. Cet ensemble de micro-organismes, donc, assure le bon fonctionnement du microbiote. Le microbiote intestinal joue un rôle fondamental dans les fonctions digestives, métaboliques, c'est-à-dire en gros les réactions, l'ensemble des réactions chimiques, immunitaires et neurologiques, au point que l'accent est de plus en plus mis sur l'importance de la qualité du microbiote et de la qualité de la muqueuse intestinale dans les maladies dégénératives, comme Alzheimer notamment. Alors, cependant, cet équilibre entre ces deux flores, les germes de fermentation et les germes de putréfaction, peut être rompu par un cumul d'agressions, de multiples agressions faites à l'organisme. La prise d'antibiotiques, le nom parle de lui-même, antibio qui va contre la vie, qui est à l'encontre de la vie même. Une alimentation trop industrialisée, donc appauvrie, de surcroît bourrée de pesticides et autres cides, d'additifs tels que des conservateurs, des colorants, des exhausteurs de goût, que sais-je, des antioxydants, des émulsifiants, etc., dont l'organisme ne sait pas quoi faire. Enfin, si, d'une certaine manière. Une alimentation faite d'excès, une alimentation pas assez variée. C'est-à-dire que, d'une part, on a le constat d'une alimentation pauvre en céréales de qualité, en légumes et en fruits frais, donc une alimentation pauvre en fibres nécessaires aux germes de fermentation, germes qui réduisent alors en nombre. Et d'autre part, on a une alimentation plus riche en viande, en fromage et autres protéines, favorable à la flore de putréfaction et qui lui permettent, alors cette alimentation qui lui permet de se développer en nombre et alors de s'installer à la place de la flore de fermentation et qui va prendre la place, donc la place qui est définie pour les germes de fermentation dans les intestins. Outre le rôle des antibiotiques de l'alimentation, le stress y est pour beaucoup, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, les conditions émotionnelles, le psychique. Le fonctionnement des intestins est dirigé par le système nerveux végétatif, qu'on appelle aussi système nerveux autonome. S'il est mis à mal par des soucis, des émotions désagréables, des peurs, les nerfs qui tapissent les parois du tractus digestif ne peuvent plus fonctionner de manière optimale. Le péristaltisme en pâtit notamment. Et la constipation s'installe. Tout cela mène à échéance à une altération de l'équilibre acido-basique dont nous parlerons plus tard. Pour résumer, s'il y a déséquilibre du microbiote intestinal, c'est que certaines des bactéries naturellement présentes se sont multipliées de façon anormale, ont pris une plus grande importance par rapport à d'autres et désormais vont pouvoir migrer vers l'appareil sexuel et urinaire, et même dans l'organisme, un peu partout, là où il fera bon s'installer et prospérer. Je pense au Candida albicans, par exemple. Il en va de même pour le microbiote vaginal, évoqué lui aussi tout à l'heure, qui fonctionne de la même façon et dont le déséquilibre favorise la colonisation, notamment par l'Escherichia coli. La constipation chronique est un des autres facteurs. Alors, quel rapport entre le microbiote et la constipation? Là, il va falloir redéfinir ce qu'est la constipation dans le cadre d'une chronicité, parce que la définition est parfois encore un peu floue pour beaucoup. La constipation est un trouble de santé, c'est posé. La constipation est un trouble de santé. Elle n'est pas un fonctionnement normal de l'organisme. Il faut bien avoir en tête que c'est un trouble de santé, j'insiste, qui se caractérise par une difficulté à obtenir une évacuation des selles de manière spontanée, quotidienne et suffisante. Trouble de santé accompagné de tout un cortège de désagréments que connaissent nos auditrices et auditeurs qui l'ont déjà éprouvé ou qui l'éprouvent toujours. Ce qui a été mangé la veille et dont le corps n'a pas besoin doit être évacué le lendemain sans difficulté. Or, quand les proportions entre les germes de fermentation et les germes de putréfaction dont fait partie la famille des Escherichia coli, vous voyez où je veux en venir, sont inversées, le péristaltisme est ralenti, il y a stagnation des selles, accumulation des matières dans le côlon, donc de toxines. Et cet état crée une irritation, une inflammation de la muqueuse intestinale et peut entraîner d'autres phénomènes que nous n'aborderons pas ici, une congestion de la zone, un volume beaucoup plus important qui comprime non seulement les parois intestinales, mais en plus l'appareil urinaire et va fa favoriser les infections urinaires puisque les bactéries qui composent le microbiote, désormais déséquilibrées, vont s'échapper par des microfissures qu'on appelle les jonctions serrées, qui sont desserrées en quelque sorte, qui tapissent la muqueuse intestinale. Ces jonctions serrées sont endommagées, telles l'émail du filet d'un pêcheur, comme souvent nos clients et clientes m'ont entendu le dire. Alors, et l'hygiène de vie dans tout ça? L'hygiène de vie. La fatigue, le stress, le manque d'hydratation. La fatigue, elle se traduit, elle est traduite par un, elle, comment dire, elle est, elle s'introduit par un manque de sommeil ou par un sommeil de mauvaise qualité, non réparateur, non récupérateur, une fatigue due au surmenage, au stress, un stress aussi, outre la fatigue, ça peut être aussi le stress intense ou chronique par accumulation désagréable, d'émotions désagréables, mal surmontées, mal maîtrisées ou non relativisées, qui amènent notre organisme à fonctionner en mode combat ou fuite. C'est-à-dire que notre organisme va sécréter des hormones adaptées pour une réponse au stress. Mais il s'agit ici d'un stress que je qualifie de dévoyé. Normalement, ce mode ne devrait être activé qu'en cas de danger immédiat, c'est-à-dire pour une question de survie. Une personne se trouve en face d'une autre qui l'agresse verbalement, physiquement ou les deux à la fois. La personne se trouve devant un serpent, un tigre, une panthère, que sais-je, qui demande une réponse rapide de l'organisme. Mais aujourd'hui, de par notre mode de vie, sous toutes ses formes, notre cerveau perçoit un danger constant, permanent. Il est donc en état de stress, d'anxiété, de préoccupation mentale constant. De ce fait, nous sécrétons ces hormones constamment et un désordre hormonal s'installe. C'est épuisant, physiologiquement, mentalement, sur du moyen et du long terme pour notre organisme. Et c'est la cause de nombreux déséquilibres dans le corps humain, notamment le déséquilibre acido-basique qui favorise, entre autres, les infections urinaires. Alors, à contrario, les solutions à portée de soi-même, c'est savoir se reposer, trouver les moyens pour dormir, chasser le stress, la respiration profonde, l'exercice physique, alterner les périodes de travail et de détente, trouver ce qui nous plaît, qui nous correspond pour vivre mieux avec soi-même, et avec ceux et parmi ceux qui nous entourent. Savoir quelle place on prend soi-même, pour soi et avec les autres, parmi les autres, car une infection urinaire est aussi une question de territoire.
Super, parfait. Merci beaucoup, Cécile. Il y a un autre facteur qui peut être très important, c'est le manque d'hydratation. Donc, bien sûr, il faut absolument avoir une hydratation optimale pour éviter les réinfections. Donc, boire suffisamment d'eau au cours de la journée et ne pas attendre d'avoir soif, ce qui permet d'éviter une concentration trop forte de l'urine dans la vessie. Ce qui est normalement, donc là, plus c'est concentré, plus les bactéries peuvent se remultiplier rapidement. Au contraire, plus c'est dilué et plus on peut avoir cet effet par l'émission de dépurification régulière de la vessie. Donc, comment faire pour boire assez? Ben, il faut trouver des stratégies. Parfois, on ne ressent pas la soif, donc il faut. Par exemple, je connais quelqu'un qui se met des alarmes sur son téléphone. Donc, toutes les 2 heures, il y a une alarme qui se déclenche et qui dit, bon, il faut boire maintenant. Ce qui permet, si on en fait à peu près 7 ou 8 dans la journée, d'arriver facilement à boire 1,5 litre à 2 litres, ce qui serait un dosage assez optimal pour éviter les réinfections. Alors, on parle d'eau, on parle de tisane. Alors, si on prend des tisanes un peu drainantes, ça peut aller faire davantage aller aux toilettes. Donc, ça peut être un avantage d'utiliser des plantes drainantes comme la bruyère, la busserolle, la verge d'or ou l'ortie blanche. Voilà. Sinon, chacun trouvera sa stratégie et trouvera les moyens d'arriver à boire et d'hydrater régulièrement le corps.
Alors, à propos des sous-vêtements, chez la femme comme chez l'homme, le fait de porter des sous-vêtements en matière synthétique et d'autant plus portés très très près du corps, les vêtements trop serrés, les pantalons, le fait d'utiliser des savons intimes trop décapants parce qu'ils annihilent le film protecteur de la peau qui arrête naturellement les bactéries, tout cela. Porter des sous-vêtements en matière synthétique, porter très près, utiliser des savons intimes trop décapants peut favoriser les infections urinaires. Je pense à une chose. Je vous propose la petite expérience suivante pour voir à quel point votre savon peut être décapant. Vous mettez un petit peu de savon habituel sur une éponge et vous allez nettoyer votre lavabo ou votre baignoire ou votre évier avec et vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà. Suggestion. Donc, afin d'éviter les infections urinaires, il vaut donc mieux préférer les sous-vêtements en coton, utiliser un savon au pH neutre pour l'hygiène intime. Il serait bien de penser aussi à uriner juste après les rapports sexuels pour nettoyer, vidanger en quelque sorte l'urètre. Enfin, il est recommandé, ce que faisaient auprès de nous nos mères et nos grand-mères, de s'essuyer d'avant en arrière pour éviter la contamination par des bactéries provenant de l'anus, notamment les Escherichia coli, vers l'urètre. Je voudrais faire un aparté à propos de la cystite et de la candidose vaginale. Je prendrai l'exemple d'une patiente dont la cystite a été soignée par antibiothérapie. Alors, les antibiotiques ont fait disparaître les symptômes et les douleurs, mais par la suite, la personne a souffert d'une candidose vaginale, c'est-à-dire une invasion du microbiote vaginal par le candida albicans. Parce que les antibiotiques ont détruit et déséquilibré la flore intestinale et la flore vaginale. Et peu de temps après, elle a présenté à nouveau une cystite. Eh bien, sa flore fragilisée a favorisé la prolifération d'une levure qui s'est mue en champignon, le candida albicans, parce que c'est une levure, et quand les levures s'agglomèrent, elles se muent en champignons. Donc, ensuite, des bactéries comme les Escherichia coli peuvent envahir. Et c'est un cercle vicieux qui cause bien des cystites à répétition, cercle vicieux qui pourrait être rompu grâce à des traitements naturels qui n'agressent pas les microbiotes. Cela m'amène à vous parler de l'équilibre acido-basique, qui est une question que je vous disais tout à l'heure cruciale en naturopathie. La notion de terrain est primordiale. Pour moi, en tout cas, j'en parle souvent. Le terrain, alors, pour que vous qui nous écoutez ayez bien les notions, je vais définir un peu les choses. Le terrain, c'est l'ensemble des liquides organiques. le sang, la lymphe, les liquides ou sérums intra- et extracellulaires. Dans ces liquides baignent les cellules et les organes, eux-mêmes constitués de cellules. Et ces liquides doivent avoir un parfait équilibre, repensé en permanence par notre corps entre les composants acides et les composants alcalins, qu'on appelle aussi base. Et chaque organe, chaque tissu, chaque liquide de notre organisme a un pH particulier et ces pH, ces différents pH, sont constamment rééquilibrés. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis notre conception jusqu'à notre mort. Et cet équilibre entre les divers composants ou substances se nomme équilibre acido-basique. On peut comparer nos cellules et nos organes à une plante qui a fondamentalement besoin de sa terre nourricière, ici les différents liquides organiques. Cette plante en dépend pour se maintenir en vie, se développer, prospérer, se multiplier. Par exemple, vous achetez un hortensia, un magnifique hortensia chez votre fleuriste, et vous le mettez dans une terre assez pleine de glaise, en fait. Et puis, l'hortensia est très beau, il est très beau, il se débrouille pour être très beau, vous l'arrosez, vous pensez faire tout bien pour qu'il soit en garde sa beauté, et petit à petit, vous voyez dépérir. Mais tout simplement, l'hortensia va plutôt se développer dans une terre acide. Et si vous lui apportez la terre dont il a besoin, eh bien vous le verrez à nouveau aller beaucoup mieux. Et c'est la même chose pour nous. Donc vous comprenez qu'il est essentiel de maintenir l'équilibre acido-basique de notre terrain pour le bon fonctionnement de nos cellules, de nos organes. Un équilibre acido-basique est en fait synonyme de bonne santé et alors de prévention de nombreux troubles et de maladies qui pourraient sinon se déclarer. Comment appréhender la mécanique de l'équilibre acido-basique? D'une part, les cellules produisent des déchets acides lorsqu'elles remplissent leurs fonctions. Cette augmentation d'acidité dans les cellules peut être décuplée par la consommation d'aliments acides et ou acidifiants, les protéines animales notamment. On retrouve là le problème de la qualité du microbiote. Et d'autre part, plusieurs systèmes du corps, appelés aussi émonctoires, c'est-à-dire la peau, les poumons, le foie, les intestins, les reins, éliminent ces acides. L'élimination est d'autant plus facilitée par une hygiène de vie globalement saine, dont une alimentation équilibrée, variée, riche en légumes et en fruits, ou biologiques de préférence, dont une alimentation donc fait partie. Et comme il arrive ponctuellement que l'élimination naturelle de cette acidité par les émonctoires que je vous ai cités soit insuffisante, eh bien l'organisme va pomper dans ses réserves de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux tels que le magnésium, le calcium, le potassium, et ainsi des composés alcalinisants pour contrer les acides se lient à eux pour en faire un sel neutre. Donc, l'acidité, un composé acide se lie à un composé alcalinisant et on a un sel neutre. Et ce processus de neutralisation de l'excès d'acidité, appelé système tampon, rétablit cet équilibre acido-basique indispensable à la vie. Lorsque le système de gestion de l'acidité est insuffisant, le corps, et c'est là qu'on peut admirer l'ingéniosité de notre organisme, le corps va stocker les acides dans les tissus conjonctifs. La nuit, lorsque la production d'acides diminue, les tissus les rejettent pour favoriser leur élimination par les reins et les poumons, et c'est pourquoi le pH urinaire de la première urine du matin doit être acide. Et par parenthèse, c'est pourquoi il faut comprendre les raisons d'un pH qui serait habituellement alcalin au lever. Ça, le tableau que je vous ai brossé est un tableau normal. En revanche, l'excès d'acide ou acidose est la marque, elle, d'une rupture permanente, chronique, de cet équilibre. Et cette rupture permanente, chronique, va stresser l'ensemble du corps, puisque cela touche de près les cellules et les organes. Et dans ce cas, les réserves de minéraux alcalins ont décliné. apparaissent alors des symptômes qui peuvent très bien ne pas être perçus par qui n'a pas été, n'est pas vigilant ou n'a pas été éduqué à cela. Donc apparaissent des symptômes et se déclarent divers troubles de santé, voire des maladies. Cette accumulation de déchets toxiques au niveau des reins et de la vessie provoque les infections urinaires. Pour maintenir un pH équilibré, il faut donc consommer en bonne proportion des aliments acides et des aliments alcalins, mais aussi faire de l'exercice, pratiquer la respiration profonde, maîtriser les sources de stress, bien dormir. Parce que souvent, malheureusement, l'acidose est importante et ce que je vous dis est bien, mais parfois l'alimentation seule ne suffit pas. Il est alors utile d'avoir recours au procédé de tamponnage de minéraux alcalinisants, le magnésium, le calcium, le potassium, d'oligoéléments, de vitamines pour rétablir l'équilibre acido-basique. L'objectif primordial de toute cette passionnante et remarquable machinerie est de maintenir la stabilité du pH sanguin à 7,4. Le pH sanguin n'accepte que d'infimes variations. Il est le pH le plus important de l'organisme. Il est indispensable à la vie de l'organisme. Si cette fourchette du pH sanguin n'est pas respectée, c'est la mort assurée. En résumé, l'infection urinaire est la conséquence de plusieurs facteurs impliquant l'hygiène de vie, alimentation, hydratation, hygiène, maîtrise du stress. Elle peut être évitée, cette infection urinaire, les infections urinaires peuvent être évitées en prévenant l'apparition de ces facteurs grâce à une bonne hygiène de vie qui comprend, je me répète, de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, de vider souvent et complètement la vessie pour éviter la stagnation de l'urine et la prolifération des bactéries. Uriner immédiatement après les rapports sexuels, s'essuyer avec du papier ou se laver d'avant en arrière, lutter contre la constipation et bien sûr, grâce à l'aide de certains produits naturels qui vont aider le corps à combattre l'infection lorsqu'elle est arrivée, avérée et l'aider à maintenir son équilibre métabolique, flore intestinale, équilibre acido-basique, équilibre des minéraux. Donc, parmi ces produits, existe le Démanose.
Et oui, le démanose, donc un petit peu le cœur de notre sujet ce soir. Donc en fait, on a vu qu'une infection urinaire, ben, il faut la traiter parce que c'est important de réagir rapidement. Donc, alors pour rappeler, si on a une infection urinaire, c'est une cystite. Après, si la migration va plus loin, ça devient une pyélonéphrite. Donc là, c'est l'infection qui va au rein. Et si elle n'est pas traitée, ça peut devenir une septicémie. Donc c'est très important de prendre le problème au sérieux. Hein. Il peut y avoir danger à ne pas prendre en charge la problématique rapidement. Donc, pour éviter ça, on a les antibiotiques qui, quand même, ont vraiment pu sauver des vies et puis permettre de régler le problème rapidement. Normalement, en 48 heures, c'est réglé. Mais on sait que les antibiotiques sont une solution qui n'est pas durable. C'est-à-dire que le problème de l'antibiotique, c'est que c'est un poison. Donc, le poison va tuer la bactérie, ce qui est très bien, mais il ne va pas tuer 100% de la bactérie. Il va probablement tuer 99,9% et il y aura toujours 0,01% ou 0,001%, peu importe. Il y aura toujours un survivant. Et ce survivant peut, parce que la nature est intelligente et c'est un petit peu l'héritage de millions d'années d'adaptation, la bactérie va s'adapter à l'antibiotique, va devenir résistant à l'antibiotique. Donc, ça permet, ça, le danger de ça, c'est qu'on arrive à soigner la première, la deuxième, voire la troisième infection avec le même antibiotique, mais qu'on peut être amené à changer d'antibiotique au fur et à mesure. Et parfois, peut avoir des situations où il n'y a pas d'antibiotiques qui. Où il n'y a plus d'antibiotiques qui puissent solutionner le problème et on arrive sur des situations qui peuvent devenir préoccupantes. Alors, on a vu aussi que les antibiotiques peuvent détruire la flore intestinale, la flore vaginale, donc c'est aussi une source d'effets secondaires voilà, qui ne sont pas forcément souhaitables. C'est pourquoi l'œdème anneux constitue vraiment une alternative très très intéressante pour éviter d'en recourir systématiquement aux antibiotiques. Alors, l'œdème anneux n'est pas pour 100% des infections. Donc, on a vu qu'à peu près 75%, 80% des infections sont causées par la bactérie Escherichia coli. Donc, il y a aussi un pourcentage un peu plus minoritaire de peut-être 3-4% pour Klebsiella. Donc sur ces deux germes, l'œdème anneux est très efficace et marchera pratiquement à 100%. Donc on peut régler environ 80% de toutes les infections urinaires avec ce produit-là. Alors c'est un sucre naturel hein, qui apparaît dans la nature, notamment la fameuse canneberge, mais également dans certains fruits, des airelles. Dans certains arbres également, donc certains arbres forestiers. Donc, le démanose que l'on propose actuellement est issu c'est un extrait du bouleau. Avant, il était extrait du mélèze. Donc, c'est un sucre simple qui n'est pas métabolisé par le corps s'il est bien pris en dehors des repas. Il va passer directement dans le sang, directement dans le circuit urinaire, dans la vessie, et c'est au niveau de la vessie qui va pouvoir agir efficacement. Donc, n'étant pas métabolisé, il ne va pas faire augmenter le taux de sucre dans le sang, donc les diabétiques peuvent en prendre, de même que tout le monde en fait, hein, les personnes fragilisées, personnes qui prennent des traitements médicaux, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent. Donc, toute personne, depuis le nourrisson, voilà, tout le monde peut prendre du démanose, y compris même les animaux d'ailleurs. Donc, souvent, les chats peuvent être sujets ou les chiens peuvent être sujets aux infections urinaires et ça marche également très bien pour nos compagnons à quatre pattes. Donc, c'est assez bon à savoir pour ceux qui seraient confrontés à cette problématique chez les animaux. Alors, après, ce qui est important de voir pour le démanose, c'est que c'est connu depuis longtemps, mais sous sa forme synthétique, ça n'a aucun impact sur la santé. Donc, on ne peut pas utiliser le démanose synthétique et ce n'est que depuis à peu près 2003 que les chercheurs ont réussi à extraire le démanose d'une manière naturelle, sous une forme naturelle, en développant une technicité particulière. Et donc, finalement, ce n'est que depuis à peu près 2003-2004 que ce produit est apparu sur le marché et a été utilisé par de plus en plus d'utilisateurs. Donc, je pense qu'en 2007, on était pratiquement les premiers à le proposer en Europe continentale. Donc, c'est quelque chose de relativement récent, on va dire, même si on a quand même un recul maintenant d'une quinzaine d'années. Alors, quel est son mode d'action? En fait, on voit que sur le schéma, alors je pense que ça il y a un petit temps de latence, mais enfin, vous allez avoir un schéma à l'écran qui montre une bactérie. Donc, le petit pois vert, c'est une bactérie Escherichia coli. Et cette bactérie, pour arriver à s'agripper à des corps étrangers, elle a des petites pattes hein, ou de poils qu'on appelle des pili ou des fimbria. Et ces petits poils sont munis tout au bout de lectines. Et ce sont ces lectines qui permettent de s'agripper en fait à certains récepteurs qu'on trouve. Par exemple, sur le tractus urinaire, hein, sur l'épithélium de la vessie et des voies urinaires. Et donc, s'il n'y avait pas ces lectines, en fait, il n'y aurait pas d'infection urinaire finalement. Mais bon, la nature essaie de survivre dans tous les milieux, donc les bactéries s'adaptent à ce milieu-là également. Et donc, il y a des protéines sur la paroi du tractus urinaire, ce qui permet aux bactéries de s'y agripper, et notamment des glycoprotéines très proches du démanose. Et l'idée du démanose, c'est en fait d'exploiter le point fort de la bactérie et de transformer ce point fort en point faible. Un peu comme dans les arts martiaux, on utilise la force de l'adversaire pour le neutraliser. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le démanose, en fait, va s'agripper, enfin, va tirer à lui les toxines de ces bactéries Escherichia coli. Et donc, au lieu de s'accrocher au tractus urinaire, les bactéries vont peu à peu s'accrocher aux démanoses qui flottent dans l'urine. Donc, il suffit à peu près 2-3 grammes de prise pour commencer à éliminer un grand nombre de bactéries qui seraient présentes dans l'urine lors d'une infection urinaire. Et donc, comme on le voit sur le schéma, donc chaque petit pentagone vert représente en fait une molécule de démanose. Donc, on voit des molécules sur le tractus, l'endothélium, donc ce qui est écrit comme étant la muqueuse vésicale. Donc, ça, c'est le point d'attache. Mais le démanose, c'est également les petits pentagones verts qui sont tout autour de la bactérie sur l'image de droite. Donc, en fait, il y a une espèce de compétition entre le démanose et les glycoprotéines qui sont présentes sur l'endothélium de la vessie. Et en général, si on prend assez de démanose, on gagne la compétition. Donc, on arrive à évacuer un maximum de bactéries par l'émiction. Donc, l'avantage de ce mécanisme, c'est que ce n'est pas un poison, en fait. Contrairement à l'antibiotique, lui, va avoir besoin d'empoisonner et de détruire une bactérie qui peut donc développer une résistance. Ici, on ne peut pas développer de résistance puisque finalement, les fibria qui sont au bout de, enfin, qui sont sur le pourtour de la bactérie Escherichia coli font partie de sa structure en fait. Sans ces fibria, la bactérie, elle va plus pouvoir s'agripper nulle part, donc elle va pas survivre, donc elle va pas développer autre chose que ça. Donc elle va jamais développer une résistance. Par rapport aux démanoses. Donc, on pourrait avoir un résultat sur la première, la dixième infection, quoi qu'il arrive, il y aura le même mécanisme, en fait. Alors que, voilà, ce n'est pas forcément le cas avec les antibiotiques. Voilà, donc, alors après, sur le démanose, on a différents protocoles d'utilisation. Donc, en général, on parle par gramme, donc il est présenté en comprimé ou en poudre, et on a un nouveau produit, c'est les sachets instantanés. Donc les comprimés sont dosés à 1 gramme, les sachets à 3 grammes, et la poudre elle se dose par la cuillère à café. Donc en général, lorsqu'on est en face d'une infection, donc vraiment en crise, on considère qu'il faut prendre 3 grammes toutes les 3 heures en dehors des repas, donc c'est important, hein, une demi-heure avant ou minimum 1 heure et demie après un repas, de façon à ce que justement il n'y ait pas de métabolisation du démanose, comme si c'était un simple sucre. Parce que si c'est pris presque au moment du repas, finalement le corps va considérer que c'est un aliment, il va le métaboliser et le démanose va servir à produire autre chose que l'effet qu'on. Donc il faut le prendre en dehors des repas, donc 3 fois 3, enfin minimum 3 grammes toutes les 3 heures. Et normalement, en faisant ça, au bout de 24-48 heures, on a une réduction significative des symptômes. Normalement, au bout de 48 heures, l'infection est largement avancée ou enfin largement solutionnée ou voire terminée. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si jamais il n'y avait pas d'amélioration significative sous 48 heures, il y a une possibilité que l'infection ne soit pas vraiment due que à Escherichia coli. Il peut y avoir un autre facteur, une autre bactérie qui traîne en même temps, Donc, il est quand même conseillé de prendre le problème avec d'autres produits ou voire de prendre les antibiotiques malgré tout, parce que la situation, évidemment, ne doit pas dégénérer comme on l'a vu au début. Donc voilà. Sinon, sous 48 heures, c'est normalement c'est presque terminé. Après, on a un dosage de nettoyage qu'on préconise après une infection, qui est de 3 grammes 3 fois par jour pendant le reste d'une boîte, par exemple. Donc ça correspond à peu près à 3-4 jours en complément du dosage d'attaque. Il y a un cas particulier, c'est la cystite de la lune de miel, donc
Oui.
après les rapports intimes. Donc à ne pas négliger, on a une solution pour ça, c'est de prendre, alors si c'est possible, 3 grammes avant les rapports. Idéalement 1 heure avant, mais enfin, on ne va peut-être pas prendre le chronomètre non plus dans cette situation. Donc on fait comme on peut. Et 3 grammes immédiatement après. Alors, et encore 3 grammes le lendemain. En fait, en faisant ce protocole, on arrive à éradiquer, je dirais, 95% des infections urinaires suite au rapport sexuel. Après, concernant, alors chez l'homme, parlons de nous quand même un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un problème très féminin. Chez l'homme, on a moins de résultats. Parce que, bon, je parle de l'homme, après 50 ans, on a donc l'hypertrophie de la prostate qui permet en fait, enfin, qui, justement, qui empêche le flot à l'urine, enfin, disons, à la vessie de se vider totalement. Et l'urine résiduelle, donc, qui est un petit peu bloquée au niveau de la vessie, a tendance à fermenter et à créer donc une prolifération bactérienne. Donc pour cette raison-là, on a une infection, la prostatite chez l'homme. Et pour cette raison-là, il est parfois difficile de la traiter avec le démanose parce que quand on a pris le démanose, ben, après, il faut évacuer. Ben, parfois, on n'arrive pas à tout évacuer. Donc l'urine résiduelle, même avec du démanose, ben, elle peut quand même encore voilà, redevenir un bouillon de culture qui permet aux bactéries de se redévelopper. Donc on a quand même des résultats, mais ils sont peut-être un petit peu moins, je dirais, moins à 100% que chez la femme. Donc, néanmoins, c'est quand même mieux. Et donc, on peut aussi prendre un produit par rapport à l'hypertrophie de la prostate en même temps. C'est-à-dire que si on a des infections urinaires, ça veut dire qu'il y a un problème de prostate et qu'il convient quand même de prendre ce problème-là également en compte. Et en le prenant en compte, on arrive en général aussi à diviser par deux ou trois le nombre, la fréquence des infections chez l'homme. Voilà, donc après, donc il y a eu pas mal d'études sur la démanose. Alors, c'est un produit relativement jeune, hein, donc voilà, on le connaît vraiment depuis 2003-2004. Je crois que la première étude qui a été vraiment publiée, elle date de 2004. Et donc là, on a entre 2004 et 2021, je crois qu'il y a eu plus de 700 mentions du démanose dans des études donc publiées. Il y a 776 citations du démanose, ce qui quand même est pas mal. Donc ça prend tout, hein, les études in vivo, in vitro. Donc voilà, c'est pas qu'il y a eu 776 études in vivo, mais c'est quand même il y a eu pas mal de recherches sur cette molécule. Donc ça. C'est une étude qui a été publiée par une équipe italienne, qui en fait, donc celle-là et la suivante, ce sont des synthèses en fait de différentes études. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont regardé, alors dans le cas présent, ils ont regardé toutes les études publiées entre janvier 2010 et janvier 2021, et ils en ont sélectionné 13. Donc ils ont fait vraiment un tri pour le volet. Donc, ils décrivent un peu les résultats de ces 13 études, et non en particulier, il y en a 7 études différentes qui sont en comparaison avec un placebo ou avec d'autres compléments alimentaires ou médicaments. Et donc la conclusion de cette synthèse, c'est que je cite, le démanose tout seul ou en combinaison avec d'autres compléments alimentaires, tels que par exemple le lactobacillus, donc ça on y reviendra, c'est des probiotiques, a le potentiel de neutraliser les infections urinaires récurrentes chez les femmes. Voilà, donc ça c'est une première étude. Après la deuxième, c'est à peu près la même chose en fait, hein, c'est-à-dire qu'ils ont identifié, alors là c'est pas exactement le même nombre d'études, mais ils ont étudié, ils ont donc sélectionné différentes études. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que donc aux États-Unis, ils estiment que les infections urinaires sont ils estiment à 2,4 à 3,5 milliards de dollars le coût des infections urinaires pour le système de santé américain. Donc, j'ai trouvé ce chiffre assez étonnant. Ça fait quand même beaucoup d'argent et sans compter l'impact indirect. C'est-à-dire que voilà, quand on a une infection urinaire, on reste à la maison, travaille, enfin, parfois on ne peut pas travailler ou il y a d'autres impacts non négligeables. Et alors la troisième étude, qui est, bon, ça c'est une étude d'origine croate, elle est assez intéressante aussi parce que c'est finalement celle la plus significative. Ils ont fait trois groupes, c'est-à-dire qu'ils ont pris un groupe complet de... alors ils disent plus le nombre, enfin plus de 100 personnes étaient dans l'étude. Et ils ont donné à toutes ces personnes l'antibiotique ciprofloxacine 500 mg 2 fois par jour pendant une semaine. Donc, il faut savoir que toutes ces personnes sont sujettes à des infections urinaires récidivantes. Et donc, ils ont donné à toutes ces personnes donc 500 mg d'antibiotiques 2 fois par jour pendant une semaine. Donc, ça veut dire que toutes les personnes avaient des urines stériles au bout d'une semaine, normalement, puisque, bon, voilà, ils ont fait le ménage. Et après, ils ont fait trois groupes. Donc, un groupe avec 2 grammes de démanose par jour pendant 6 mois. Un groupe avec 50 mg de nitrofurantoïne par jour. Donc, voilà, un antibiotique tous les jours. Bon, je ne sais pas si c'est très bon, mais enfin, en tout cas, les personnes ont pris ça. Et après, un troisième groupe avec zéro, en fait, avec aucune substance, donc un groupe de contrôle en fait. Et donc au bout de 6 mois, il y a eu 32% de personnes qui ont eu une réinfection. Donc, et en fait, le groupe qui n'a rien reçu a eu 60% en fait de ces personnes qui ont été réinfectées pendant les 6 mois. 60% appartenaient au groupe de contrôle, donc évidemment, elles n'avaient rien ni reçu, ni démanose, ni antibiotiques, donc bon, elles avaient davantage de chances d'être réinfectées. Mais ce qui est intéressant, c'est que seulement, donc il y a eu 20% de réinfection parmi celles qui ont eu l'antibiotique et 15% pour celles qui ont reçu le démanose. Donc ça veut dire que dans de tout le groupe qui a été réinfecté, donc qui représentait en fait, qui représentait 32% de tout le panel des personnes. Donc, 60% n'ont rien reçu, 15% ont reçu du démanose et 20% de l'antibiotique. Donc, ça veut dire que le démanose de 2 g par jour permet quand même de vraiment réduire significativement les chances de réinfection. Sachant que pour nous, 2 g, c'est un dosage relativement faible, parce que 2 g par jour, bon, si on est sujette aux infections chroniques, bon, on ne ferait pas comme ça. On ferait peut-être un petit peu plus les moments où il y a du stress ou de la fatigue, etc., les facteurs aggravants dont Cécile a parlé. Et on ferait peut-être sinon un dosage préventif de 3 g par jour. Ça, c'est pour les personnes qui sont, qui sont vraiment sujettes aux réinfections chroniques. Voilà, donc j'en ai fini avec le démanose et je laisse la parole à Cécile pour nous parler des. Ah non, c'est moi qui fais les bandelettes urinaires, je crois. Donc, les bandelettes urinaires sont un outil intéressant pour gérer les infections, enfin, voilà, pour être chez soi. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire un ECBU, donc un examen cytobactériologique urinaire pour. En cas de symptômes, ben, au lieu de faire ça, d'aller chez le médecin, d'avoir une prescription, d'aller au labo, d'avoir le test, d'avoir le résultat, on peut perdre du temps. Ben, on peut prendre des bandelettes urinaires. Alors, les bandelettes urinaires, elles ne vont pas tout vous donner, mais elles vont vous donner l'essentiel pour voir si vous êtes en infection ou si ce n'est pas, ou si c'est pas le cas. Donc, bon, ben, les cinq marqueurs de ces bandelettes-là qui ont été vraiment mise en place vraiment pour les. Parce que si vous achetez d'autres bandelettes en pharmacie, parfois il n'y a que un ou deux marqueurs, soit il y en a 20 dont on n'a pas besoin. Donc ceux-là, ils sont tous intéressants, en particulier pH, leucocyte et sang. Donc voilà, on va les revoir un petit peu rapidement. Donc le pH, comme Cécile nous l'a bien démontré, plus les urines sont alcalines, moins il y a de risques d'infection, plus elles sont acides et plus ben, en fait, les bactéries se remultiplieront davantage et plus facilement. Donc, c'est intéressant de vérifier le pH même de façon quotidienne pour certaines personnes. Hein, si on a une acidose ou si on a certaines fragilités, ça peut être intéressant. Après, les leucocytes, ça, c'est un petit peu l'élément fondamental, puisque qui dit leucocyte dit présence, qui dit présence de leucocyte
Inflammation.
dit présence d'infection. Donc, voilà. Donc, en fait, entre le pH et les leucocytes, on a, enfin, surtout avec les leucocytes, on a tout de suite une idée assez précise s'il y a une infection ou pas. Après, le sang, la présence de sang ainsi que de nitrite permet d'affiner ça, c'est-à-dire permet de confirmer qu'il y a bien une infection, hein, puisque en général, s'il y a du sang, c'est qu'il y a aussi présence d'infection. De même pour les nitrites. Et après, pour les protéines, alors c'est un petit peu plus par rapport aux reins, c'est-à-dire que plus il y a de protéines, plus les reins sont fatigués. Donc parce qu'ils laissent passer les protéines, en fait. Donc ça veut dire que là, ils commencent à fatiguer sérieusement si les protéines sont élevées. Et donc, il ne faut pas tarder à réagir vite, voilà. Et à bien prendre les bonnes choses pour stopper l'infection. Par contre, ça ne vous donne pas, alors les bandelettes urinaires ne vous donnent pas le nom ou l'identité de la bactérie. Donc ça peut être n'importe quoi. En fait. Ça peut être un Escherichia coli, ça peut être un Klebsiella, ça peut être un Proteus mirabilis. On ne sait pas ce que c'est. Donc ça permet de prendre en charge. Donc si on a du démanose ou autre chose, hein, on peut avoir d'autres possibilités tout de suite pour réagir rapidement. Ça permet de réagir rapidement. Après, on peut quand même faire un ECBU si jamais on veut identifier la bactérie. Voilà. Donc, du coup, quels sont les autres produits qu'on peut utiliser? Je te laisse la parole, Cécile.
Outre le démanose, il y a un produit qui est très intéressant, qui est en fait de l'oréganol, de l'huile d'origan. Alors l'origan ou marjolaine fait partie de la famille des lamiacées, qui regroupe entre autres le thym, le romarin, la lavande. Et là aussi, de nombreuses études confirment l'activité virucide, bactéricide, fongicide et parasiticide de l'origan, comme le thym d'ailleurs, mais l'origan est supérieur au thym. Alors, ici, on a une huile d'origan appelée oréganol qui provient de plants d'origan qui poussent à l'état sauvage dans les montagnes de Grèce, que l'on ne peut atteindre que par la marche. Et c'est une huile qui est certifiée biologique. Ce qui est intéressant, c'est que de par son environnement très minéral, cet origan contient de nombreux minéraux, notamment le calcium, le magnésium, le fer, le phosphore, le cuivre, le zinc, le bore, le potassium et le manganèse. Pour vous donner une idée, il contient gramme par gramme, si vous voulez, en comparaison, 1 gramme Pour 1 gramme d'origanol, il y a beaucoup plus de calcium dans 1 gramme d'origanol que dans 1 gramme de fromage. Et il en contient, l'origanol, enfin l'huile d'origan, contiendra 16 fois plus de calcium que dans du lait. Il est une source de fer aussi non toxique, plus importante que le foie et la viande rouge. Il est aussi plus riche en magnésium que les noix de cajou. Il contient, l'huile d'origan contient de la quercétine, ce qui est très intéressant parce que la quercétine est un anti-inflammatoire par excellence. La quercétine est capable de soulager les inflammations de toute la sphère urinaire. Et peut-être que nous en parlerons, enfin je peux peut-être l'évoquer ici, c'est une réponse pour toutes les infections, pour toutes, comment dire, les infections urinaires, en fait, quand il n'y a pas d'infection, qu'il y a des signes, des symptômes, mais pas d'infection. La quercétine aussi intervient dans l'inflammation chronique de la prostate, donc la prostatite, dans l'hypertrophie de la prostate et dans les cystites dites interstitielles, donc qui provoquent une douleur sourde et qui ne sont pas liées à une infection. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Que cet origan est très riche en carvacrol, qui est un phénol et qui stimule puissamment le système immunitaire. Ça a été testé avec succès sur de nombreuses bactéries et de nombreux germes. La quasi-totalité des principes actifs de la plante sont contenus dans l'huile. Et l'huile ici est préparée selon une méthode de presse mécanique et de distillation à la vapeur pour préserver les qualités. Bon, ça n'est pas du tout une huile essentielle. Hein. Elle en a les propriétés, mais sans en avoir la toxicité. Par rapport au carvacrol, oui, parce que dans l'origan, on trouve à la fois du carvacrol et aussi du thymol, mais le carvacrol étant beaucoup plus grande quantité que le thymol, qui lui est aussi un puissant antimicrobien, antifongique, antibactérien. Alors, l'origan est virucide, bactéricide, sur toutes les bactéries, les micro-organismes que nous avons déjà évoqués, Escherichia coli, Klebsiella, sur tous les staphylocoques, entérocoques, sur la salmonelle aussi. Elle est fongicide, est active sur le Candida albicans. Elle est parasiticide pour le ténia, les vers. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Tu aurais autre chose à ajouter, Benjamin?
Non, disons que n'étant pas hépatotoxique, on peut la prendre sur du long terme ou du moyen terme. Hein, donc 8 gouttes 3 fois par jour pendant tout
Oui.
l'hiver, ça ne pose pas de problème en fait. Donc 5 jours par semaine, on fait une pause de temps en temps.
Alors,
Bon, si on a une infection, il ne faut pas faire de pause, mais voilà, sinon on peut la prendre au long cours.
stimuler le système immunitaire de cette manière. Cependant, elle n'est pas hépatotoxique, mais il faut faire attention, étant donné sa richesse en carvacrol, pour les personnes qui ont déjà des problèmes de foie ou de cœur avérés, déjà des problèmes de foie ou de cœur importants. Voilà, c'est la seule parenthèse.
Parfait. Et le xylotène?
Le xylotène, tu veux en parler, le xylotène?
Bah en fait, c'est la même chose que le démanose
Voilà.
sur les streptocoques et les staphylocoques. Donc, c'est un produit qui est assez ciblé finalement. Donc, il va permettre d'avoir le même mécanisme d'attache que le démanose. Donc, il fonctionne pareil avec les lectines. Donc, il va être en compétition avec les autres glycoprotéines du tractus urinaire pour capter les Escherichia, les bactéries streptocoques et staphylocoques et ensuite ces bactéries seront éliminées par l'émixtion, donc même mécanisme. Et le xylotène a d'autres actions, bon, un petit peu plus anecdotiques, hein, donc favorise l'absorption du calcium dans les os et renforce l'émail des dents. En général, si on veut, bon, voilà, si on veut absorber davantage de calcium, on va plutôt favoriser la vitamine D3. Mais enfin, voilà, c'est toujours bon à prendre, un bonus, par rapport à notre santé. Et après, on a des produits importants pour les intestins. Donc, par exemple, le Floracor.
Alors, le floracor, lui, est un complexe de pré- et probiotiques. Les prébiotiques, on les trouve dans l'alimentation et ils stimulent la croissance et l'activité des probiotiques. Ce qui est intéressant pour le floracor, c'est qu'il y a une technique très particulière qui est utilisée. C'est une technologie de germination par les spores. C'est-à-dire un processus qui achemine les spores de probiotiques plutôt que la bactérie elle-même. Ces spores s'attachent à l'intérieur de la muqueuse intestinale et commencent à germer pour former la bactérie probiotique. Et dans le cas de la prévention de la cystite, il permet de maintenir l'équilibre de la flore intestinale et permet également de la repeupler à la suite d'un traitement par antibiotiques. Comment dire, lorsqu'il y a une muqueuse intestinale qui est endommagée, les molécules de probiotiques sont des molécules assez grosses et généralement qui sont retenues par la muqueuse intestinale. Et lorsque cette muqueuse intestinale est endommagée, donc le filet de pêcheur est endommagé, ces plus grosses molécules vont passer à travers les mailles du filet. C'est là où, lorsqu'on prend des probiotiques et qu'ils ne font rien, pas grand-chose, il vaut mieux les arrêter parce que leur lieu de vie sont les intestins. Sinon, ils vont aller se promener dans le sang et la lymphe. Et là, cela peut être dommageable pour l'organisme. Donc, il faut faire attention aux réactions de l'organisme lorsque l'on prend des probiotiques. Cela dit, le floracor est très bien pour maintenir l'équilibre de la flore intestinale, repeupler suite à un traitement antibiotique effectivement, et lorsque il y a atteinte de Candida albicans. Généralement, la muqueuse intestinale est endommagée. Alors, il faut voir quelle est la pertinence, à la fois réparer la muqueuse intestinale et prendre des probiotiques, veiller à la réaction qu'on a par rapport aux probiotiques, si la réaction est bonne, les continuer, sinon les suspendre et réparer la muqueuse intestinale. Donc, le Floracor est une très bonne solution de manière générale. Puisque je parle de la muqueuse intestinale, ça fait référence à l'équilibre acido-basique. Et concernant l'équilibre acido-basique, de façon à le retrouver par des compléments alimentaires, lorsque l'alimentation ne suffit pas malheureusement, il y a le Digilance et le Trinkmour pour réparer la muqueuse intestinale. Alors, je m'attendais plutôt à une diapositive de l'Alkafit, mais ce n'est pas grave. Voilà, le Digilance et le Trinkmour sont deux produits que nous proposons pour la réparation de la muqueuse intestinale. Le Digilance, c'est une poudre à base de L-glutamine et de spiruline, de myrtille, d'aloe vera, de curcuma. Et le Trinkmour est une boue de tourbe thérapeutique. Ces deux produits donc réparent la muqueuse intestinale, pacifient l'inflammation. Le Digilance permettra un meilleur transit. Des personnes nous disent qu'elles dorment beaucoup mieux grâce au Digilance. Le Trinkmour permet de reminéraliser les intestins. Donc, pour tous les deux, un effet alcalinisant. Et puis, veux-tu ajouter autre chose, Benjamin, sur ces deux produits?
Oui, enfin, disons que pour moi, le Trinkmore sera plus adapté pour les personnes qui veulent rééquilibrer au niveau acido-basique, puisque c'est
Oui,
reminéralisant,
absolument.
alcalinisant. Le Digilance a d'autres vertus. Déjà, au niveau
Et le feu.
de la consistance, il y a des personnes qui préfèrent le Digilance, qui est une poudre qui a un goût assez agréable. Et après, donc, par sa formule, elle est quand même très intéressante aussi pour l'inflammation de l'intestin.
Ils se prennent à des moments différents de la journée aussi. Et le Trinkmour est sans odeur, quasiment, sans saveur, et peut être pris avec de l'eau dans un verre d'eau ou une tisane, mais elle n'en altère pas le goût. Voilà, ce qui est important de préciser tout de même, tout en ayant là deux produits très efficaces.
Alors après, on peut aller un peu plus loin dans enfin, la reminéralisation avec deux produits que si vous pratiquez un peu Nos produits, ce sont des produits qu'on fait depuis assez longtemps et qui sont très polyvalents, donc le soufre organique et la zéolite. Alors le soufre organique, c'est un extrait d'un maritime de Louisiane. Il faut savoir que ça a été isolé pour la première fois ou exploité pour la première fois par le docteur Stanley Jacobs dans les années 60. Et que l'industrie, on va dire, du complément alimentaire s'est appropriée au fur et à mesure cette substance pour en faire des gélules, des comprimés, des poudres très fines, au fur et à mesure que le temps passait. Et on a eu des produits quand même très, très dénaturés, très, très éloignés de ce que le docteur Stanley Jacobs avait isolé lui-même et avait utilisé avec succès sur ses premières expériences. Et finalement, il a fallu attendre la fin des années 90 pour un chercheur passionné, Patrick McGlynn, qui a voulu soigner son fils atteint d'un cancer des testicules. Il a réussi en fait à reprendre le cahier des charges et la méthode de fabrication du docteur Stanley Jacobs et a réussi à trouver un labo qui acceptait de le faire en fait, parce que c'est difficile à faire et pas très économique. Et on a donc, grâce à Patrick McGlynn, ce soufre organique-là qui est assez unique en fait. Donc très polyvalent, il est précurseur de leucocytes, hein, donc il va remonter les globules blancs assez vite, hein, donc ce qui peut être un plus par rapport à la gestion des infections urinaires, et renforce donc le système immunitaire tout en reminéralisant, précurseur de nombreuses protéines, qui vont favoriser notamment les échanges de gaz entre le milieu intra et extracellulaire, l'expulsion du dioxyde de carbone depuis l'intérieur de la cellule vers l'extérieur, et puis, à contrario, de permettre l'acheminement de l'extérieur au cœur de l'oxygène au cœur de la cellule. Donc, la zéolite, elle est très détoxifiante et reminéralisante en même temps. Donc, c'est plus par rapport à nettoyer l'organisme tout en régulant le pH. Donc, c'est un produit également très agréable à prendre. Étant régulateur du pH, on a des personnes qui nous disent que ça améliore le sommeil, que ça améliore la digestion. Donc, ça a aussi un impact assez large sur le corps, hein, sur l'organisme. Et en même temps, ça peut être intéressant pour la pollution médicamenteuse. Donc, si on a été souvent confronté aux antibiotiques, enfin, voilà, qui sont très très bien, mais qui peuvent un petit peu laisser des traces au niveau du foie ou de l'intestin. Donc, ça permet d'évacuer quelques résidus médicamenteux. Voilà.
Oui.
Et tu as quelque chose à rajouter, pardon?
Oui, je dirais que la zéolite a toutes les propriétés de l'argile, toutes les propriétés de l'argile, mais elle est extrêmement puissante, elle est très douce à la fois, mais extrêmement puissante, ce qui fait qu'elle n'est pas toujours facile à utiliser pour des personnes qui sont polymédicamentées ou polycomplémentées. En tout cas, c'est une, comment dire, c'est une roche volcanique qui permet vraiment de se détoxifier pour avoir un environnement cellulaire propre et qui permet d'être appliquée dans de nombreuses pathologies. Elle est utilisée notamment beaucoup dans les pays de l'Est pour toutes les chimiothérapies, radiothérapies. Elle est utilisée dans les maladies de foie, comme la NASH, pour soulager le foie et en soutien pour l'ostéoporose aussi. Voilà.
Super. Tu veux parler de l'alcaphite
Oui,
et de la
peut-être bien.
nacre?
Alors, je reviens au principe d'équilibre acido-basique. Il est important de se reminéraliser, notamment avec deux minéraux qui sont importants, le magnésium et le calcium. L'alcaphite, ici, enfin le magnésium, je vais parler du magnésium de manière générale, qui est indispensable au bon fonctionnement de plusieurs fonctions de notre organisme, entre autres l'influx nerveux, le fonctionnement musculaire, le sommeil, la lutte contre le stress, bien sûr l'équilibre minéral, et il aide à la fixation du calcium. Calcium et magnésium sont complémentaires, mais ils sont aussi antagonistes. C'est pour ça que c'est important aussi de les prendre à deux moments différents de la journée pour que l'un ne gêne pas l'autre. Dans le cadre d'un déséquilibre acido-basique installé, le magnésium va contribuer à rétablir un équilibre minéral qui a été en fait précarisé, ce qui est fondamental pour éviter de trop puiser dans les réserves osseuses en minéraux. Je prends toujours l'image, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet du système tampon. C'est comme un chercheur d'or. Quand il a de l'or à portée de main, il se baisse pour le ramasser. Et puis l'or file dans la terre, donc il va falloir creuser et creuser de plus en plus. Eh bien, c'est ce que fait en quelque sorte, c'est l'image que je prends pour montrer ô combien d'abord le corps est résistant et ô combien il va aller puiser dans ses réserves pour maintenir le corps en bonne santé. Et là, quand l'alimentation ne suffit plus et que l'acidose est importante, c'est important d'avoir des compléments alimentaires comme le magnésium et le calcium. Alors, le bisglycinate de magnésium, en fait, c'est un magnésium qui est chélaté. Ici, il y a 10% de magnésium élément qui permet l'acheminement le plus rapide et le plus efficace dans l'organisme et au niveau cellulaire. Là, le magnésium, le bisglycinate de magnésium est combiné avec un oligofructose et de la taurine synthétique, qui permet vraiment au magnésium de se fixer au niveau cellulaire et même d'en chasser le calcium si besoin, parce que le calcium peut prendre la place du magnésium au niveau cellulaire, et là, on assiste à un dysfonctionnement cellulaire. Donc, voilà, donc ça c'est le bisglycinate de magnésium est un des meilleurs magnésiums qui peut se maintenir au niveau cellulaire. Il n'y aura pas comment dire, d'effets secondaires désagréables comme une accélération du transit intestinal et des problèmes rénaux qui peuvent survenir. La nacre, elle, ici, c'est pur nacre. Son nom est parlant, c'est du calcium de nacre existant sur la Terre. C'est ce qu'on appelle le calcium naissant, qui est produit par une cellule animale, en l'occurrence l'huître, contenant des protéines avec des cristaux de carbonate de calcium. Et chose intéressante, qui ne nécessite pas de vitamine D pour être fixé. Donc le calcium de nacre, lui, va permettre de ralentir la déminéralisation osseuse, et notamment qui est favorisée par un déséquilibre acido-basique. Il entre dans, beaucoup de personnes nous le demandent pour des problèmes d'ostéoporose, et là, ça veut dire que le corps est allé puiser très profondément. C'est le seul complément alimentaire de ce type qui est un pH alcalin, c'est-à-dire qu'il va dans le sens d'une alimentation saine et qui permet de restaurer et d'entretenir une bonne santé, en fait. Voilà. Veux-tu ajouter quelque chose?
Non, c'était super. Après, je précise juste que l'alcaphite, comme c'est une source de magnésium très très bien absorbée, peut être aussi
Absolument.
un bon moyen de lutter contre le stress, la fatigue, qui est un facteur aggravant d'infection urinaire. Donc, c'est en tant que neurotransmetteur, et aussi un précurseur de sérotonine. Ça peut être un bon allié dans la prévention.
Oui.
Et le renforcement du terrain.
Tu as raison de préciser ça parce que ces deux, magnésium et calcium, n'entrent pas forcément obligatoirement dans seulement le fait de retrouver un équilibre acido-basique. Ils peuvent être pris séparément pour des visées particulières, comme par exemple un meilleur sommeil.
Exactement. Donc, parfait. Ben, je crois qu'on est arrivé à la fin de notre présentation. Donc, je crois qu'on a quelques questions. Alors, j'ai une question d'une personne qui a une rectocolite hémorragique et qui a des réinfections malgré le démanose. En fait, ça, voilà, ça, le démanose permet de stopper le processus, mais ça revient. Alors, je pense qu'on peut répondre quand même que sur un problème d'intestinal inflammatoire assez conséquent, on risque d'avoir une porosité intestinale importante
Bien sûr.
et donc une migration en interne des bactéries vers la vessie. Ce qui fait que si on ne règle pas, c'est-à-dire si on ne bouge pas les trous, il y aura toujours un facteur de réinfection. Donc, d'où l'importance dans un cas comme ça, c'est-à-dire que en fait, l'infection urinaire est une conséquence directe de l'inflammation, de l'inflammation au niveau de l'intestin. Et donc, tant qu'on n'a pas réglé le problème en amont, on n'aura jamais un résultat durable en aval. Donc, c'est pour ça que le démanose, dans un cas comme ça, permet d'éviter les antibiotiques à répétition, parce que si la personne prenait des antibiotiques, ce serait vraiment toutes les 2 semaines, hein, je pense. Donc, permet de ne pas avoir à faire cette démarche, mais il faut quand même régler le problème intestinal en amont. Donc, notamment avec Diginance ou Drink More et Floracor. Donc voilà, je ne sais pas si est-ce que tu as vu une question particulière. Ah oui, peut-être si tu as une idée par rapport à la cystite interstitielle.
Oui, alors la cystite interstitielle, j'ai parlé tout à l'heure de la quercétine qui est intéressante dans ce cas-là. La quercétine et le DMSO. Le DMSO qui est du soufre liquide anti-inflammatoire que l'on peut passer au-dessus du pubis et la quercétine à prendre en interne en fait et qui soulage efficacement ces problèmes de cystite interstitielle. Voilà.
Donc voilà, la cystite interstitielle, c'est en général, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de signe il n'y a pas une
Oui.
seule bactérie, il n'y a rien, rien, rien. On ne sait pas ce
Juste
qui
des
se passe,
douleurs, oui.
ça fait mal et on ne sait pas quoi faire. Donc c'est un peu un problème sympathique, mais voilà, donc on a quelques pistes. Bien, ben, je ne sais pas, est-ce que tu vois d'autres questions cruciales auxquelles on n'aurait pas répondu?
Non, je ne vois pas. Alors, une personne dit que effectivement le démanose soulage bien. Soulage, mais comme je l'ai évoqué par toute cette introduction, l'infection urinaire n'arrive pas par hasard. Donc, soigner une infection urinaire veut dire qu'il faut en trouver la cause. Et cette cause appartient à chacun. Il faut chercher. C'est important de chercher pour comprendre ce qui se passe. Voilà.
Bon, ouais. Parfait, ben écoutez, merci beaucoup, merci Cécile.
Merci à toi, Benjamin.
J'espère
Merci
que
à nous deux.
merci à vous tous qui nous avez suivis jusqu'au
Et
bout.
oui,
J'espère
surtout.
qu'on n'a pas été trop long. Et donc voilà, on vous enverra comme promis le replay pour cette présentation. Et puis n'hésitez pas à nous recontacter, soit par mail, soit par téléphone, si vous avez des questions particulières par rapport aux produits évoqués aujourd'hui.
Bien entendu. Voilà. Et écoutez,
Voilà.
bonsoir à tous et à bientôt, peut-être pour un autre webinaire.
À
Merci.
bientôt.
Au revoir.
Au revoir.